Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient régulièrement à la une de l'actualité, qui est celui de l'accueil des étrangers et plus particulièrement de l'enfermement des personnes en situation illégale. C'est un sujet sur lequel nous vous proposons de réfléchir parce que c'est plus que simplement une question de justice ou une question anecdotique, je dirais, qui concerne quelques personnes. Ça interroge aussi toute la société sur la dignité, sur l'humanité en quelque sorte. Alors pour parler de ce sujet, nous avons un invité qui s'appelle Baudouin Van Overstraat. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Je devrais dire maître Van Overstraat puisque vous étiez avocat jusqu'il y a peu, parce que vous avez changé de métier et qu'aujourd'hui vous dirigez je vais le dire en français parce que je n'ai pas un bon accent anglais, le service jésuite pour les réfugiés. Alors, expliquez-nous, vous êtes directeur de ce service depuis quelques mois, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce service? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit là, c'est là que je dois travailler?
Ce qui m'a tout de suite attiré, c'est la devise du JRS, JRS pour Jesuit Refugee Service.
Moi, oui.
Et donc ça tient en trois mots, et pour moi, avec ça, tout est dit. C'est accompagner, servir et défendre les personnes réfugiées, les demandeurs d'asile, les personnes en situation irrégulière. Donc accompagner, c'est être présent aux côtés de cette réalité extrêmement difficile, être à côté. Servir, mais c'est essayer effectivement de répondre aux besoins des personnes qui se trouvent en situation d'exil, que ce soit au niveau psychosocial, au niveau familial et au niveau juridique. Et défendre, c'est dans le sens de défendre leurs droits, c'est dans le sens de rappeler au monde qu'ils existent, et c'est au sens de advocacy, donc militer et faire du lobbying pour que leur situation soit reconnue.
Donc ce n'est pas sans lien avec votre métier précédent finalement.
Il y a des liens.
Et alors concrètement, ça se passe comment? Ça se passe avec une équipe
Alors ça se passe de façon très différente suivant l'endroit où on se trouve dans le monde. Le service jésuite des réfugiés est parti d'une intuition du père général des jésuites, le père Arupe, en 1980, à l'époque des Boat People vietnamiens, et il a considéré que c'était vraiment un enjeu majeur que la Compagnie de Jésus soit présente aux côtés de ces gens-là. Et donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de projets, ou plutôt des projets dans une cinquantaine de pays. Vous avez des camps en Syrie, en Thaïlande, vous avez des réfugiés urbains qui sont aidés en Afrique du Sud, vous avez l'Afrique des Grands Lacs, et en tout, on peut considérer que l'ensemble des projets JRS touche à peu près 700 000 personnes dans le monde.
Oui.
Alors en Belgique, par rapport à ça, c'est une petite ONG qui s'est focalisée exclusivement sur la défense des réfugiés ou des personnes en situation irrégulière qui sont détenues dans les centres fermés. Donc il y a 5 centres fermés en Belgique, il y en a à Bruges, Merksplas, donc près de la frontière hollandaise, à Wottem à côté de Liège, et 2 à côté de la piste de l'aéroport de Zaventem à Steenokerzeel.
Et ça concerne combien de personnes alors dans ces centres?
Ça concerne en moyenne 7000 personnes qui y entrent chaque année. Maintenant, il faut dire que la rotation est énorme. J'ai lu quelque part que le séjour moyen était de 29 jours, avec évidemment des beaucoup plus et des beaucoup moins.
Avec après, à la clé, une expulsion éventuellement?
Alors, il faut considérer que sur ces 7000 personnes qui y entrent chaque année, il y en a 75% qui sont effectivement refoulées dans leur pays.
Alors, cette situation donc, de l'enfermement des personnes en situation illégale pose un problème au niveau du droit parce que finalement, en Belgique, normalement, on enferme les personnes qui ont commis des délits. Or, à proprement parler, les personnes en situation illégale n'ont pas commis d'autres délits que d'être sans papier, sans les papiers adéquats sur notre territoire. Alors, avant de revenir sur cette situation de l'enfermement des étrangers, sur ses conséquences en termes de justice, la situation de ces personnes finalement qu'on enferme, ce sont donc des gens qui arrivent en Belgique et qui n'ont pas de papier. Il y a d'autres situations où les gens sont enfermés?
Oui, il y a trois grandes catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle les INAD, donc ceux qui sont inadmissibles en Belgique parce qu'ils arrivent et qui n'ont pas le visa qui leur permette d'accéder au territoire belge. Vous avez ceux qui arrivent sur le territoire et qui introduisent immédiatement une demande d'asile. Alors la demande d'asile, c'est dans un cadre assez précis, ce sont les conventions de Genève, ce sont des gens qui considèrent qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine pour des raisons de discrimination religieuse, sexuelle, politique, etc. Et il y a une troisième grande catégorie qui sont les personnes qui se trouvent sur le territoire belge, mais qui sont en situation irrégulière. Et donc c'est un peu de tout, c'est très différent comme statut.
Et finalement, bon, ces personnes ont déjà souvent eu un parcours difficile avant d'arriver en Belgique. Comment ça se passe pour elles quand elles se retrouvent finalement derrière les barreaux alors qu'elles espéraient être accueillies? Quelles sont les conséquences sur leur vie quotidienne et leur personnalité, j'ai envie de dire?
Mais il faut bien se dire que ça s'appelle centre fermé, mais en fait ce sont des prisons. C'est des hautes grilles de 5 mètres, des barreaux, des clés, des gardiens. Donc c'est un système de nature répressive. D'ailleurs au départ, et à l'époque où il n'y avait pas encore de règlement d'ordre intérieur pour les centres fermés, on avait adopté tout simplement le régime qui était en vigueur dans les prisons. Donc en clair, c'est un régime carcéral. Il y a une grande différence entre les différents centres qui ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est-à-dire que contrairement aux prisons, on n'est pas en cellulaire, on n'est pas en cellule 23 heures sur 24, mais on est en régime de groupe. Et alors, suivant les centres, soit on est obligé de suivre le régime de groupe toute la journée avec des mouvements de groupe, entrer, sortir, pas d'accès au dortoir, etc. Soit au contraire, dans les deux centres, dans trois centres sur cinq, il y a une grande liberté de mouvement à l'intérieur. Mais ça reste des personnes qui sont détenues, qui ne comprennent pas pourquoi on les enferme puisqu'elles considèrent qu'elles n'ont rien fait de mal. Ça reste des personnes qui sont traumatisées très souvent par un voyage absolument épuisant dans des conditions souvent dramatiques. Ça reste une absolue absence d'intimité. Et donc des gens qui petit à petit perdent leur identité et effectivement d'être confrontés à d'autres personnes qui sont en situation de fragilité, ça n'aide pas.
On revient sur ce sujet après notre première pause musicale.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette djellaba, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, coule. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Voilà Alain Souchon, et c'est déjà ça. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça, et parfois c'est déjà trop, puisque ces personnes qui viennent chercher refuge chez nous, eh bien souvent on les enferme. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui avec Baudouin van Overstraat, qui est directeur du service jésuite pour les réfugiés. Alors on disait donc au début de cette émission, le travail du service, c'est notamment de rendre visite à ces candidats réfugiés dans les centres fermés.
Oui, nous avons une équipe de visiteurs accrédités, c'est-à-dire qui ont accès à tous les centres fermés et qui passent des journées entières pour être à côté des gens, pour les soutenir. Donc c'est le soutien moral, bien évidemment. C'est aussi essayer de voir quels seraient leurs besoins spécifiques, voir s'ils ont un avocat, voir s'ils ont besoin de soins médicaux particuliers, servir éventuellement de go-between par rapport à l'administration, prendre des contacts avec la famille à l'extérieur. Et donc tout ça, c'est le travail journalier. Et dans ce travail journalier, dans ces rencontres, nous puisons finalement le matériau qui nous servira à mieux défendre leurs droits. On participe à des enquêtes, à des études, à des colloques, etc. Et donc où là, on peut, en connaissance de cause, défendre vraiment la situation des personnes qui sont irrégulières ou dites irrégulières chez nous.
Comment vous êtes perçu par les membres, je dirais, l'encadrement des centres fermés? Vous êtes bien accueillis?
Je pense qu'au niveau du personnel et au niveau des gens que nous rencontrons au jour le jour, dans l'ensemble, on est extrêmement bien accueillis. Les directions sont bien conscientes que nous remplissons une mission sociale qui, par ailleurs, est prévue dans la loi, qui est prévue dans la directive européenne en ce qui concerne la gestion des personnes en situation irrégulière. Et donc, de ce côté-là, ça n'est pas vraiment le problème. Le problème est de savoir... Pourquoi est-ce qu'ils sont détenus? Est-ce que vraiment ils doivent le rester? Normalement, ils ne peuvent être détenus que le temps nécessaire à leur renvoi au pays et à la mise en œuvre effective de l'expulsion, ce qui parfois est assez compliqué s'ils n'ont pas les papiers requis. Mais ça peut traîner 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il y a tout un jeu au niveau des décisions qui sont prises par l'Office des étrangers qui peut amener finalement à des situations de détention beaucoup plus longues.
Donc un enfermement qui dure et qui finalement est dû seulement au fait que la personne n'avait pas ses papiers. On assimile donc, en enfermant ces personnes, on les assimile à des délinquants finalement. Est-ce que c'est vraiment un délit de ne pas avoir de papier?
Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Alors oui, formellement, c'est un délit, puisque c'est passible d'une peine d'emprisonnement, mais très concrètement, les parquets en Belgique ne poursuivent jamais pour la situation irrégulière en Belgique, sauf si c'est lié ou si ça s'ajoute à d'autres délits. Donc si quelqu'un est poursuivi pour des délits de droit commun et qu'en même temps il est en situation irrégulière, il serait également poursuivi à cette occasion-là, mais on n'organise pas des poursuites systématiques au niveau pénal contre l'ensemble des personnes étrangères en situation irrégulière en Belgique. Et donc ça pose toute la question de savoir si effectivement il est vraiment nécessaire de les emprisonner. L'idée est qu'ils doivent donc être sous la main de l'autorité pour s'assurer qu'elle pourra les expulser le temps venu. Je ne suis pas certain que ce soit indispensable et je suis certain que ça n'est pas efficace.
Parce que, bon, c'est vrai que parler de l'accueil, du non-accueil des étrangers, ça nous amène finalement à la notion de frontière. Bon, il y a les idées qui circulent, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et il faut quand même mettre des limites. Bon, pour les marchandises et les investissements, les frontières sont largement effacées, mais par contre, c'est vrai que pour les personnes, en tout cas pour certaines personnes, elles ne cessent de se renforcer. Alors, est-ce que c'est seulement une question économique, je disais justement, on ne peut pas aider tout le monde, ou est-ce qu'il y a là derrière quelque chose de plus profond, une peur de perdre peut-être notre identité, d'être envahi, entre guillemets ?
Il y a certainement les deux. De manière générale, nos pays du Nord ont peur. On parle de la forteresse Europe qui a mis en œuvre tout un système pour éviter l'afflux de réfugiés venus du Sud.
Vous interrompez, c'est une forteresse qui n'est pas seulement... C'est pas seulement une image, cette forteresse.
Ah non, c'est une réalité. Il y a des accords bilatéraux pour organiser déjà au sud et à l'est de l'Europe la lutte contre l'afflux d'immigration non contrôlée. Et donc, on participe à la construction de centres fermés en Ukraine. On a des accords bilatéraux avec le Maroc et d'autres pays du sud de la Méditerranée. Donc, très clairement... Tout est mis en œuvre pour protéger notre mode de vie ici occidental. Je pense que la dimension économique n'en est certainement pas exclue. C'est vrai que c'est une réelle question de savoir jusqu'où on peut accueillir et quelles charges on peut accueillir chez nous. Je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de relativiser la question. Aujourd'hui, sur les dizaines de millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde, je pense que 80% sont accueillis dans des conditions parfois dantesques par les pays voisins immédiats, les pays limitrophes. La Jordanie est complètement débordée, le Kenya occupe les plus grands camps de réfugiés du monde, et donc ces pays-là supportent une charge de loin supérieure à celle qui peut être éventuellement proposée à nos pays d'Europe. Donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de voir le problème des flux migratoires dans son entièreté et pas uniquement... avec le petit bout de la lorgnette.
Et à propos de charges, est-ce que ça représente une charge importante pour la Belgique, l'accueil de ces réfugiés ?
Alors, si on veut se concentrer exclusivement sur ceux que nous rencontrons et qui sont en centre fermé, je ne dispose pas des chiffres. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a certainement moyen d'accueillir à moindre frais en respectant la personne qui arrive chez nous et qui, dans la plupart des cas, demande protection. Et la manière de répondre de l'État belge, notre hospitalité à nous, pour les demandeurs d'asile qui arrivent à la frontière, qui arrivent à Zaventem, c'est de les mettre en centre fermé. C'est une manière de faire, et il y en a d'autres, je pense. Il y a d'ailleurs des alternatives à la détention. Nous maintenons et nous battons pour que la détention ne soit utilisée que comme le dernier remède, en dernier cours, s'il n'y a pas possible de faire autrement. Mais l'expérience prouve qu'il y a des alternatives. Et par exemple, ce qu'on appelle les maisons de retour pour les familles avec enfants qui ne peuvent plus être effectivement détenus en centre fermé pour le moment. Il y a des maisons de retour où les gens sont coachés et où on prépare effectivement leur trajet de retour en essayant d'intégrer ça dans un projet de vie. C'est tout autre chose, c'est une approche totalement différente, c'est une approche qui respecte la personne et qui respecte la liberté humaine. Je pense que là, on a beaucoup à apprendre.
Mmh. On y revient dans quelques instants après notre deuxième pause musicale. On va écouter Pierre Rapsat qui nous parle du parcours de réfugié, d'immigration de sa mère qui a fui l'Espagne.
Il y avait dans les yeux d'aurore à l'encre des années écrite sur un livre d'or, toute une histoire qui brille, c'est tout simplement sa vie et les souvenirs que je peux dire vous emmènent danser dans son passé. Danse, 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 aurore. Avec ton fiancé, danse, danse, danse aurore et vive les mariés. Mais il y a dans les yeux d'aurore, elle et ses enfants qui fuient l'Espagne à l'aurore, ils sont venus lui prendre celui qu'elle aime, Franco, sombre souvenir que je peux lire, gravé dans le passé, dans son passé. c'est l'aurore, c'est la fin de l'été. Danse, 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 c'est l'aurore, elle n'a plus jamais dansé. L'histoire est parfois cruelle, elle a quitté le soleil pour arriver dans ce plat pays, pour que ses enfants grandissent ici. Survivre pour qu'un jour je puisse vous dire en 1900 et n'est que qu'un d'épatant. Et même si longtemps elle est restée belle, elle est à jamais fidèle au souvenir qui l'emmène danser dans son passé.
Pierre Rapsaté, Aurore. Nous revenons donc à ce thème de l'enfermement des étrangers. On a parlé tout à l'heure de frontières, on a parlé de peur de perdre peut-être son identité. On va venir maintenant un petit peu au thème des droits humains, puisque c'est quand même de ça qu'il est question. On a entendu ces derniers temps, ces dernières années, qu'il y avait des familles entières qui avaient été enfermées dans ces centres fermés, et la Belgique a d'ailleurs été condamnée par, je pense, la Cour européenne des droits de l'homme pour cette situation. Bon, c'est vrai, alors cette question des réfugiés nous pose la question des droits humains. Est-ce qu'il y a des limites aux droits humains? Est-ce qu'au nom d'une certaine sécurité économique ou sécurité tout court, un pays peut mettre des limites à ses droits?
Mais c'est un grand débat. Effectivement, la Cour européenne de Strasbourg a considéré il y a quelques années qu'il était intolérable, parce que ça constituait un traitement inhumain, de détenir des enfants mineurs d'âge en centre fermé, parce que c'était une catégorie qui était trop vulnérable. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à la suite de cette condamnation, la Belgique a été obligée de revoir sa loi, et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'enfants mineurs d'âge détenus dans les centres fermés, et effectivement, on a trouvé une solution que nous applaudissons. Nous sommes d'ailleurs la seule association qui rend visite à ces maisons de retour dans lesquelles sont actuellement accueillies les familles avec enfants mineurs d'âge. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si un tel système ne pourrait pas être étendu à d'autres catégories de personnes. Nous maintenons en tout cas que certaines personnes ne devraient jamais se trouver en centre fermé. À commencer par les demandeurs d'asile, ils demandent protection. Alors certains le demandent de façon injustifiée, et il y a des procédures pour effectivement reconnaître ceux qui méritent cette protection et ceux qui ne la méritent pas, mais a priori, ils la méritent, ils n'ont donc pas le droit d'être refoulés, d'être renvoyés dans leur pays. Nous considérons également que les catégories de personnes particulièrement vulnérables n'ont pas leur place en centre fermé. On pense aux personnes qui vivent des affections psychiatriques graves, aux femmes enceintes, etc. Ce sont des catégories qui, pour nous, n'ont pas leur place en centre fermé, et nous continuons à nous battre pour qu'il en soit ainsi.
Mmh. Et ces maisons de retour dont vous parlez, elles montrent leur efficacité. Il n'y a pas de fuite ou de fugue, ça se passe comment en fait?
Alors, il y a effectivement un certain taux de personnes qui partent dans la clandestinité et qui ont peur du retour et veulent s'y soustraire à tout prix. À côté de ça, il y a un taux de réussite qui est tout à fait impressionnant. Et surtout, il y a un système qui coûte beaucoup moins cher que des centres fermés, mm-hmm. où il y a une occupation en personnel et en infrastructure tout à fait importante. Et on a constaté, on a d'ailleurs publié sur notre site internet le rapport d'évaluation après 4 ans de fonctionnement de ces maisons de retour. Et de manière générale, il y a évidemment pas mal de choses à améliorer, mais c'est quand même un très net progrès par rapport à la situation antérieure. Et ça permet aux gens de replacer cette perspective de retour. Quand je dis perspective, je suis très poli, c'est une obligation de retour, mais de la situer dans un projet de vie un peu plus large, un peu plus global.
Et vous êtes bien perçu par les politiques quand vous promouvez ce type de maison ?
Vous posez une question extrêmement délicate, à un moment extrêmement délicat, où effectivement la pression politique se fait très très forte. Si vous lisez un petit peu les questions parlementaires et les réponses qui y sont données, c'est pas tellement le bon moment pour porter des questions pareilles, mais nous sommes là pour ça et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va arrêter.
Très bien. Voilà, donc je vous propose à nos éditeurs qui voudraient en savoir plus de se rendre sur deux sites. D'abord sur le site du service jésuite pour les réfugiés qui est www.jrsbelgium.org, www.jrsbelgium.org. Et sur le site de Vivre Ensemble où se trouve donc une analyse qui a été écrite par le père Xavier Dijon, qui traite donc de ce problème dont on a parlé aujourd'hui, et voilà, c'est une façon de prolonger un petit peu la réflexion. Voilà, on arrive déjà au bout de cette émission. Un grand merci, Baudouin Van Overstraat, d'être venu partager tout ça avec nous, et à très bientôt.